plus que 7 jours. 7 jours avant la grande catastrophe. Vous allez me dire, mais de quoi il va parler? Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de politique, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, j'ai fait exprès, je suis un peu taquin ce matin. C'est une phrase, 7 jours avant la grande catastrophe, qu'on a entendu, rappelez-vous, c'était ce qu'on disait à une semaine du 21 décembre 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 2012 c'était une année assez particulière, alors pas pour nous chrétiens hein, bien sûr, mais dans le monde il était beaucoup question de fin du monde, il y avait des sites internet qui en parlaient, des émissions de télé même qui en parlaient, des pubs, qui nous parlaient finalement que finalement ce serait une année catastrophique, la fin voilà, de toute chose, voilà, donc... Ils imaginaient un peu une fin du monde prévue en 2012. Il y a même un film qui est sorti 2012. Je crois que je l'ai mis. Tu l'as pas? Alors attends, je vais. Ah, effectivement, il y a un film qui est sorti 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez vu. C'est un film catastrophe. Alors voilà, c'était un peu la thématique de cette année-là. Et il faut dire qu'à l'époque, on nous avait sorti plusieurs prévisions. C'est pas sorti de nulle part. On nous avait dit que les Incas avaient prévu ça, les Mayas avaient prévu ça, Nostradamus avait prévu cette date du 21 décembre 2012. Et tous, il y avait plein de sectes aussi. Alors voilà, forcément, qui prédisaient du coup que la fin du monde allait arriver ce jour-là. Alors, je vous cite un peu hein, ce qui était prévu. Hein. Les astéroïdes allaient frapper la Terre, que le Soleil allait anéantir tous nos systèmes de communication, qu'il y aurait de nombreuses catastrophes naturelles, que de nombreuses guerres éclateraient un peu partout, et que suite à cela, il y aurait une grave crise financière mondiale qui entraînerait en fait une perte de notre monnaie. L'argent, finalement, ne serait plus d'actualité. Et on aurait remplacé l'argent par des coquillages. Je sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, il y avait des gens qui allaient à la plage chercher des coquillages. Plein de seaux, en plus. Ils y croyaient vraiment, hein. Donc, c'est pour vous dire, hein. La frénésie de l'époque. Bref. Tout ça pour vous dire, finalement, voilà. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu? Ou ça fait loin, 2012, ça fait un petit peu loin. Donc, mais bref, c'était un peu, voilà, le truc du moment. Bien sûr, voilà, certains ont surfé sur ça, hein, comme les pubs et le film 2012. Alors, si vous l'avez pas vu, bon, ce film catastrophe, qui un peu synthétisait tout cela. Et finalement, il ne s'est rien passé du tout. Rien du tout. 21 décembre 2012, tout le monde a attendu. Ah, ben, y a pas eu grand chose, hein. Donc, et depuis de nombreuses années, malgré cette date, hein, les annonces catastrophiques n'ont pas cessé. Au point que selon un sondage, hein, les mots qui décrivent l'état d'esprit des Français aujourd'hui sont lassitude, c'est le premier terme, lassitude, colère, tristesse, nostalgie et peur. Alors ils sont nombreux, hein, les facteurs qui chaque jour cherchent à faire grandir dans nos cœurs l'insécurité et la peur. Et on vit dans une société qui, en plus, est instable. Il y a des bruits de guerre, il y a des catastrophes. Ça, c'est vrai. Et du coup aussi, voilà, on est anxieux. Et voilà, ce sondage montre aussi que dans le cœur des Français, et pas que des Français, finalement, de tout citoyen du monde, il y a de l'anxiété. Alors, on trouve différentes choses hein, qui peuvent pour nous aggraver ce phénomène d'insécurité, de peur. Il y a la solitude. Les maladies, les catastrophes naturelles, l'inflation, le chômage, les violences familiales, les émeutes, la délinquance, les escroqueries, les abus, le terrorisme, les guerres, voilà, la liste est très très longue. Hein. Et depuis quelques années d'ailleurs, on a l'impression de les enchaîner un petit peu. Voilà, on a l'impression que quand c'est fini, il y en a encore. Et du coup, là je vous dis ça ce matin, j'ai même l'impression d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte, quoi. Il n'y a pas de découverte. Voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, le monde est ainsi fait et il va pas s'améliorer malheureusement. J'aimerais du coup, dans ce contexte où on vit encore une énième période de troubles, comme si cela ne se terminait jamais, de plonger nos regards dans le psaume 91. Ce qui est bien dans la Bible, c'est qu'il y a une parole à chaque fois dans chaque situation. Et du coup, de pouvoir lire le psaume 91 qui nous parle un petit peu de cela, peut-être que vous le connaissiez d'ailleurs. En général, c'est un psaume même pour faire apprendre aux enfants assez court. Psaume 91. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles. psaume 91, je lis du coup dans la version du Sommeur. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionçon et le serpent. Parce qu'il m'est attaché, à moi le Seigneur, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin, Dieu est ma sécurité. On pense que c'est un psaume, alors on n'a pas textuellement écrit, on connaît pas textuellement de manière certaine l'auteur de ce psaume, mais voilà, plusieurs théologiens pensent de manière assez certaine dans l'écriture de ce psaume qui vient du roi David. C'est le roi David qui l'a sans doute écrit, et le roi David savait ce que c'était de ne pas être en sécurité. Il savait ce que c'était, surtout après son adultère avec Bathsheba. Il va commettre l'adultère, suite à son adultère, les circonstances vont s'enchaîner, les circonstances dramatiques, les circonstances en particulier familiaux. Son fils Amnon va violer sa propre sœur, sa propre fille, le roi David. Son autre fils, Absalom, va donc tuer son frère. Et il va ensuite vouloir le tuer, tuer le roi, tuer son père, pour prendre sa place. Suite à cette histoire, ses proches, conseillers, ses proches à la cour vont le trahir. Ses amis, sa famille, la cour, tout le monde se tourne contre David. Insécurité, crainte et angoisse. Ça ne peut susciter que cela. Vous imaginez un peu la situation, hein. T'as pas le temps de souffler que les circonstances s'enchaînent. Le péché, d'ailleurs, voilà, c'est un des pouvoirs du péché. Quand tu penses avoir atteint le fond, tu peux toujours creuser. Et David, du coup, sait ce que c'est d'être en insécurité, de vivre dans la peur, dans l'incompréhension. David aurait pu se poser des questions sur Dieu, dire « Mais pourquoi, Seigneur ?» Et comme d'habitude, David, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va louer Dieu. C'est fou, hein ? Il va louer Dieu. Il va écrire des psaumes, des cantiques, il va notamment écrire ce psaume, très beau psaume, où il va trouver en Dieu l'assurance de sa sécurité. Sa sécurité, peu importe si sa famille le trahit, que ses enfants le trahissent, que sa cour, ses conseillers le trahissent, sa sécurité est en Dieu seul. Pourtant, David, il n'est pas parfait. David, c'est loin d'être un homme parfait, d'ailleurs, mais il se confie dans le Seigneur. Ce psaume, il est très connu. Psaume 91, d'ailleurs peut-être que nous, on ne le connaît pas, être humain, mais même le diable le connaît très très bien. Puisque c'est le diable qui va utiliser ce psaume pour tenter Jésus dans le désert. Sur un des trois aspects de la tentation, il va l'utiliser contre lui en déformant le propos, bien sûr, et Jésus va devoir répondre par la parole. Mais le diable connaît ce psaume. Un psaume, du coup, qui est essentiel dans la vie chrétienne, parce qu'il présente des vérités fondamentales pour tout chrétien, la sécurité est dans le Seigneur. Alors ce matin, vous allez peut-être me dire, oui, mais je connais déjà, mais est-ce que nous vivons cela ? C'est différent. Je peux connaître plein de choses, est-ce que je vis ces choses-là ? C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors c'est un psaume assez riche, donc j'ai essayé de prendre des éléments ici que j'ai choisis importants. Surtout trois vérités que nous allons voir ce matin. Première vérité, le chrétien trouve sa sécurité dans sa connaissance de Dieu. Et puis on verra ensuite du coup la confiance en Dieu et pour finir la prière, la relation à Dieu. Verset 14, le chrétien du coup trouve sa sécurité dans sa connaissance de Dieu. C'est le verset 14 qui nous le dit. « Parce qu'il m'est attaché à moi le Seigneur, je vais le sauver, le protéger, car il me connaît. » La condition, elle est là, il me connaît. Est-ce que ce matin vous connaissez le Seigneur ? Ce qu'il est, est-ce que vous l'avez expérimenté dans votre vie ? Pas juste connaître de manière intellectuelle. Est-ce que vous avez expérimenté, par exemple, la bonté de Dieu dans votre vie ? Est-ce que vous avez expérimenté la toute-puissance de Dieu dans votre vie ? Est-ce que vous avez expérimenté la fidélité de Dieu ? En tant que chrétien, c'est important d'expérimenter. Alors, l'expérience, elle ne bâtit pas la vie chrétienne. C'est la parole de Dieu. Mais l'expérience, elle permet de fortifier, d'édifier. Et du coup, d'avoir une relation avec Dieu. Si David a pu proclamer ces choses-là, c'est parce qu'il a vécu des choses compliquées. Mais aussi parce qu'il s'est attendu au Seigneur. David connaissait le Seigneur depuis son plus jeune âge, depuis qu'il gardait les troupeaux de son père. Et depuis ce temps, il a placé sa confiance en Dieu. C'est-à-dire ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est celui finalement qui règne au-dessus de tout et de tous. Le souverain qui règne sur le cœur des croyants, mais aussi de ceux qui ne le connaissent pas ou le rejettent. Il est le Seigneur, celui qui vit en dehors d'ailleurs de toute création, celui qui tient toute chose dans sa main. C'est ça le Dieu Très-Haut. Et David ici le proclame. Pourtant ce Dieu Très-Haut qui règne veut nous accueillir. C'est ce que ce psaume nous dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Dieu n'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu accessible, qui se rend accessible. Il est aussi El Shaddai, Dieu puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut tout. Rien, absolument rien ne lui est impossible. Alors nous, des fois, on le dit, alors ça, on dit Amen, hein, en général. Mais dans nos vies, des fois, on dit pas Amen. On dit, oh là, là c'est coincé, je suis fini, et puis du coup, on se morfond, et puis voilà, et puis on est coincé. Mais David, il vit une chose compliquée, et pourtant, il proclame, il commence comme ça, hein. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui est souverain, quelque part, repose à l'ombre du Tout-Puissant, de celui en qui et pour qui rien n'est impossible. David, il voit pas ça dans sa vie, hein. Mais il le proclame, il prend position. Est-ce que dans nos vies, nous prenons position sur les promesses de Dieu ? Promesses que des fois on peut ne pas croire, mais que la parole de Dieu nous dit. Et faire comme Jésus, faire comme David, s'appuyer sur la parole de Dieu. Pas sur le sentiment du moment, une société où on est très dans le sentiment. Je sens que. Non, non. En tant que chrétien, c'est la parole qui nous guide. Et David a compris cela. Jésus va le faire de même d'ailleurs, quand il va répondre au diable. Ce Dieu veut nous faire reposer à son ombre, à l'ombre du toit de sa demeure. Et nous sommes invités à rentrer dans sa présence, en laissant notre insécurité, nos craintes, pour reposer et reposer auprès de celui qui peut tout, celui qui est notre sécurité. Notre sécurité ici se fonde sur le caractère de Dieu. Et plus nous le connaîtrons, moins nous serons dans la crainte et l'insécurité. Il est l'hôte qui nous accueille, il fait de nous ses protégés. Du coup, le premier point ici, le chrétien trouve sa sécurité dans la connaissance de Dieu. À quoi faire ? Comment faire alors ? Vous avez une idée ? Le chercher, d'accord, mais comment du coup ? Comment connaître Dieu ? Par sa parole, on revient toujours à la même chose. La connaissance de la parole. Elle est notre guide pour nous chrétiens, la parole de Dieu, littéralement. C'est elle qui nous permet de poser un cadre, qui nous permet de connaître le Seigneur et de pouvoir s'appuyer sur ses promesses, sur ce que lui dit qu'il est et comment lui nous voit. Je vous encourage, du coup, c'est le premier point, mes frères et sœurs, à faire comme David, à connaître Dieu au travers de sa parole. Ça ne tombe pas du ciel. Dieu nous demande ici de passer du temps avec lui. Verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur et de la peste, du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. David présente ici un Dieu qui est tendre, un Dieu qui est aimant. Un peu comme une poule qui protège ses poussins, le Seigneur nous couvre de ses ailes. Et cette image nous montre à quel point Dieu nous aime. Nous avons un Dieu fidèle, et David dit ici que sa fidélité est comme un bouclier. Un bouclier contre tous les raisonnements humains qui nous mettent dans le doute. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es vraiment chrétienne? T'as vu un peu comment t'agis? Et du coup, qui viennent faire douter de notre relation avec Dieu. Et David ici s'appuie sur la fidélité de Dieu. Je n'ai pas à craindre de ma relation avec Dieu parce que je sais que Dieu est fidèle. C'est mon bouclier contre toutes les attaques de l'ennemi. Nous avons un Dieu fidèle. J'ai lu cette histoire, peut-être que vous connaissez d'ailleurs cet homme, Félix de Nola. Ça vous dit quelque chose? Nola, c'est une petite ville près de Naples, et nous sommes au premier siècle de l'Église. Donc on est au début du siècle de l'Église, et Félix, il va être un des tout premiers pasteurs de la région. Il va subir la persécution de l'Empire romain et il va souvent fuir. Et il va vivre des choses fabuleuses avec le Seigneur. Alors, des choses qu'on aimerait vivre, mais juste sur le côté positif. La persécution qu'il a vécue, on n'a pas envie de la prendre, mais il a vécu des choses assez fortes. Une des expériences qu'il va vivre, l'empereur Domitien, il va l'arrêter, il va être condamné du coup à mourir sur des chardons ardents, et au moment où on va le plonger du coup dedans, il y a un orage qui passe, ce qui fait que ça marche pas. Alors, il va mourir quand même, bien plus tard, mais entre-temps, il va vivre des choses folles, notamment cette histoire assez connue de lui, au moment où il va encore fuir. Du coup, les soldats romains, il va trouver refuge dans une maison, dans le sous-sol d'une maison, dans une cave. Et au moment où il referme la porte derrière lui, il y a une araignée qui tisse une toile sur la poignée de la porte. Les soldats romains qui arrivent fouillent la maison et en voyant qu'il y a une toile d'araignée se disent « on va pas rentrer là-dedans, c'est impossible qu'il soit dans la cave ». Et Félix de Nola du coup va échapper ici à ses bourreaux. Alors il va pas bien terminer, hein. Il va quand même être tué du coup par l'Empire romain, mais il va proclamer ceci avec cette histoire, une belle phrase. Il va dire ceci: « même une toile d'araignée devient un mur » quand Dieu est là. Même une toile d'araignée devient un mur quand Dieu est là. Et la suite? Mais là où il n'est pas là, même un mur devient une toile d'araignée. Félix de Nola, comme le roi David, il sait que c'est en Dieu seul qu'est sa force. Que Dieu lui accorde la vie pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Qu'il lui enlève, peu importe. Il a confiance en son maître. Alors c'est un homme du coup qui a tout donné au Seigneur, comme le roi David, comme d'ailleurs tant d'hommes et de femmes. Et du coup, quand on fait cela, on vit des choses fortes avec celui qui nous protège sous ses bras. Premier point, du coup, la connaissance de Dieu, qui nous permet d'être en sécurité, d'affirmer notre sécurité dans le Seigneur. Deuxième point, deuxième vérité, la confiance en Dieu. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Est-ce que vous êtes prêts à redire cette parole de David avec moi? Éternel, tu es mon refuge. Non, vous voulez pas trop. Vous avez des doutes. Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. La seule chose pour accéder au refuge qu'est le Seigneur, c'est la confiance. Il veut qu'on lui fasse confiance et qu'on lui dise « Seigneur, je me confie en toi ». Il n'est pas évident de faire confiance, hein, dans la vie, encore moins maintenant. Et quand, par exemple, on va se faire opérer, il faut faire confiance au médecin. Bon, moi, dans 2 semaines, je me fais opérer les dents de sagesse, quelque chose que j'ai laissé traîner parce que je voulais pas me faire opérer, parce qu'il y a, alors, voilà, il y a 3 dents où ça va, il y en a une qui touche un nerf, et du coup, moi, j'étais pas en confiance. Là, je vais être obligé de le faire, puisque mon dentiste, il m'a quand même, à chaque fois, il me voit, donc là, je suis obligé. Du coup, j'apprends à lui faire confiance. Parce qu'il va quand même me charcuter, donc bon. Mais quand on subit une opération, il faut faire confiance à son chirurgien, à son médecin. Et même si du coup, si on n'a pas confiance, ben forcément, ça peut mal tourner. C'est l'histoire d'ailleurs. En 1994, j'ai trouvé cette histoire. 1994, il y a un Londonien de 63 ans qui avait besoin d'une petite intervention chirurgicale, pas grand-chose. Mais cet homme, il n'a pas confiance dans le corps médical. Il a peur, une peur bleue des hôpitaux. Alors ça peut arriver, hein. Mais bon, il n'a pas non plus confiance en tout le corps médical. Du coup, qu'est-ce qu'il va se dire ? C'est une petite intervention. Je vais m'opérer moi-même. Je vais tenter le coup. J'ai confiance en moi. Bon, il a confiance en lui, hein. Et du coup, il va s'opérer lui-même. Et comment ça se termine ? La plaie va s'infecter. Il va attraper une septicémie et il va mourir. Et le médecin, du coup, légiste qui va voir un peu, il va dire, mais il suffisait de pas grand chose, juste de mains expertes. Et cela montre finalement qu'il faut avoir confiance. Et nous, il y a beaucoup de chrétiens, et peut-être qu'on peut en faire partie, qui n'ont pas confiance en Dieu. Alors on peut le chanter, on peut dire qu'on a confiance dans le Seigneur, mais est-ce que dans nos vies, réellement, on fait ce que Dieu veut ? Faire confiance à Dieu, c'est ça, hein. C'est faire ce que Dieu veut. Pas se dire, le Seigneur veut ça, mais je le sens pas, donc je fais ce que je veux. Mais je chante que j'ai confiance dans le Seigneur. J'ai confiance dans le Seigneur. On peut toujours chanter ça, hein, mais est-ce que du coup, vraiment, on fait ce que Dieu veut ? Ou est-ce qu'on est comme ces Londoniens qui comptent sur ses propres ressources, ses propres forces ? Et en faisant cela, nous courons à notre propre perte. Nous cultivons l'insécurité et finalement, nous ne faisons confiance en personne si ce n'est nous-mêmes. Les hommes et les femmes qui agissent comme cela s'épuisent. Celui qui compte sur le Seigneur, du coup, est comme l'aigle. Ils volent comme l'aigle, voilà, c'est pareil, hein, c'est un verset biblique. Et à nous aussi, du coup, de pouvoir placer notre confiance sur Dieu. Ceux qui vont le faire, les hommes et les femmes dans la Bible, ils vont vivre des choses extraordinaires. Mais c'est une confiance totale. Quand Dieu, du coup, va leur demander de faire des choses complètement folles, quand Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, tu tapes avec ton bâton sur la mer Rouge et elle va s'ouvrir en deux. Nous, on connaît la suite, hein. Il faut avoir confiance en Dieu pour le faire. Hein. Devant tout un peuple qui regarde, si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais lyncher parce que derrière, il y a les Égyptiens qui te courent derrière. C'est-à-dire que tu les as sortis d'Égypte pour te faire massacrer. Moïse, il avait une foi dans le Seigneur, une confiance totale. Il y a juste un moment où il va douter. D'ailleurs, il va subir cette conséquence quand il va taper plusieurs fois sur la pierre où l'eau va sortir. Mais c'est un homme qui va faire confiance au Seigneur. À nous, chrétiens, de lui faire confiance. Même quand tout nous paraît impossible, Dieu est celui, on vient de le dire, il est celui qui est tout puissant. Troisième vérité, c'est la prière. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Face à l'insécurité, face au danger, face aux problèmes, il y a plusieurs manières de réagir. Et j'ai repéré au moins 3 manières d'agir. Il y a les chrétiens tortues, il y a les chrétiens autruches et il y a les chrétiens gazelles. Bon, alors désolé, ça fait un peu le zoo, mais vous allez un peu comprendre. Alors les chrétiens tortues, en cas de danger, d'insécurité, la tortue se retire dans sa carapace. Elle se replie sur elle-même et elle compte sur le fait que leur carapace va les protéger de tout. Dans la réalité, d'ailleurs, si vous regardez bien, la tortue, sa carapace, elle le protège pas de tout. Hein. Un crocodile, il fracasse la carapace de la tortue sans problème. Et il y a des chrétiens, du coup, et on peut faire peut-être partie de ces chrétiens qui nous replions sur nous-mêmes, et quand nous nous sentons en insécurité, ou en conflit, ou peu importe, quand l'orage est là, on se replie sur nous en espérant que l'orage va passer. Que tout ira mieux demain. Il y a une chanson d'ailleurs, tout ira mieux demain. Sauf que ce n'est pas vrai. Et en général, quand on agit comme ça, on s'isole, on compte sur nos propres forces, et malheureusement, rien ne s'arrange. Parce que nos forces sont limitées. Nos forces humaines sont limitées. Il y a le chrétien autruche. Alors on pense, et il y a des chrétiens du coup qui pensent qu'en mettant la tête dans le sable, les problèmes vont disparaître. Quelque part, on est face à un déni de réalité, on nie les problèmes, et on pense aussi que ce problème va se résoudre en le niant. Passe à côté. Et du coup, ces chrétiens, en général, ils vont cacher, ils vont nier, ils vont s'enfuir face aux problèmes. Ils vont fuir les problèmes. Et si vous demandez d'ailleurs si tout va bien, ils vont dire que tout va bien. Toujours tout va bien. Même quand ça va pas, tout va bien. Alors c'est pas le ça va de ça va quand on demande à quelqu'un si ça va. Mais c'est un ça va en mode déni de réalité. Et puis il y a les chrétiens gazelles. Eux, ils vont fuir en espérant que les problèmes ne les rattraperont pas. Je cours plus vite que mes problèmes. Ça n'existe pas. Vous pouvez fuir où vous voulez. Vos problèmes vous rattraperont toujours. Et vous le savez comme moi, où nous allons, finalement, nos problèmes peuvent nous suivre. Autrement dit, s'isoler, nier ou fuir ne sont jamais des solutions face aux difficultés, face aux dangers, face à l'insécurité de nos problèmes. Ce qu'il nous faut faire, dit David, le roi David, c'est crier au Seigneur. Ne pas être dans un déni de réalité, affronter la situation et invoquer le Seigneur, c'est ce qu'il va faire David. Il va compter sur les promesses de Dieu. Et encore une fois, pour connaître les promesses de Dieu, il faut connaître sa parole. Et c'est comme cela qu'on pourra, dans nos difficultés, proclamer qu'il est fidèle. C'est ce qu'il va dire. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse. Ce que dit David, c'est pas peut-être que le Seigneur va me répondre. C'est pas ce que se dit ce verset. Hein. Peut-être qu'il va me répondre, peut-être pas, je sais pas. Non, je lui répondrai. C'est un engagement du Seigneur, c'est clair. Je serai avec lui dans la détresse et je lui répondrai. Le roi David ici pointe le doigt durant tout ce psaume vers le Seigneur et vers nous. En nous disant quelque part à chacun de nous, c'est lui qui te délivre. David le sait car il a expérimenté le Seigneur dans sa vie, malgré ses faiblesses, malgré ses échecs, il avait une confiance absolue en Dieu. Alors pour conclure, j'ai invité le groupe de louanges à s'approcher. Est-ce que cela veut dire que rien ne va nous arriver? Pourtant dans le psaume, David il va dire hein, que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, il ne m'arrivera rien. On pourrait se dire, il fait un déni de réalité. Sa fille s'est fait violer, son fils s'est fait assassiner, son autre fils le poursuit, ses conseillers l'ont trahi. Mais en fait, là, quand David parle de ça, il dit pas que finalement le chrétien échappe au problème. Mais il dit que peu importe ce qui se passera, sa confiance, elle ne sera pas atteinte. Que 10 000 tombent à sa côté. Peu importe, ça ne changera rien. Que tous l'abandonnent, ça ne changera absolument rien pour lui et le Seigneur. Parce que le Seigneur est celui qui est son bouclier. Alors durant la vie chrétienne, il est question de détresse que nous allons tous vivre. Et nous pouvons être certains, par contre, dans ces détresses, que Dieu m'aime et sera toujours avec moi. Plus nous nous éloignons du Seigneur, plus l'insécurité, elle, grandit. Et plus nous nous approchons de lui, même dans la difficulté, plus nous demeurons dans sa présence. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, et tu es précieux aux yeux de Dieu ce matin. Et tu peux être sûr que tu es en sécurité avec lui malgré tes soucis, tes difficultés. La sécurité, elle n'est pas là, là où il n'y a pas de problème. Elle n'est pas là, là où il n'y a pas de difficulté. La sécurité se trouvera même au sein des circonstances les plus difficiles, les plus périlleuses. Si, et seulement si, la méditation de la parole de Dieu et les moments d'intimité avec notre Seigneur sont là. Il n'y a pas de recette magique. C'est le temps passé avec le Seigneur qui nous permettront d'approfondir la connaissance de notre Dieu et du coup la confiance et la relation, la prière face à ce Dieu qui nous aime et qui n'attend que ça de nous. Ce matin, est-ce que vous voulez cette paix? Vous voulez ce shalom de Dieu? En ce cas, il s'agit du coup de pouvoir être discipliné et malgré les tempêtes, malgré les orages, de rester accroché à lui. Je vous invite du coup cette semaine à lire, à reméditer ce psaume 91, un très beau psaume. Voilà, j'ai essayé de tirer trois points, mais il est tellement riche, on pourrait faire une série sur ce psaume, et à vivre finalement ces trois points. Connaissance de Dieu, la confiance en Dieu, et la prière. Amen.